Oeil.
Dans cette édition, on parlera de la bonne et la mauvaise nouvelle à l'hôpital. On commencera par la bonne avec les comptes de 2024 validés. Et puis la mauvaise, c'est son manque d'attractivité. Un sujet économie aussi avec les perles. Et enfin, ce grand rassemblement d'internes samedi. Le journal de la rédaction est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Une bonne et une mauvaise nouvelle à l'hôpital, on commence par la bonne.
Et oui, la bonne, eh bien, c'est cette validation par le conseil d'administration des comptes 2024 de l'établissement en fin de semaine dernière. Selon le ministre Cédric Mercadal, une comptabilité analytique a permis de rendre des comptes clairs, lisibles et mieux compris par tous. Pour la deuxième année consécutive, le résultat est positif, 370 millions de bénéfices pour un budget de 31,5 milliards.
Pour la première fois de l'histoire, le CHPF va bien. Nous ne sommes plus en déficit, c'est ce qu'il faut retenir, et nous avons pris une trajectoire d'équilibre depuis deux exercices, donc 2023-2024, grâce au soutien massif du pays, avec un subventionnement à hauteur de plusieurs milliards, et dernièrement, en fin d'année 2024, avec l'apport de 1,9 milliard du pays pour effacer toutes les dettes cumulées depuis 2009, donc depuis Mamao, le CHPF sort enfin à la tête de l'eau.
Alors, quelle prévision pour 2025 cette année? La directrice Anne-Thierry Payat, que vous venez d'entendre, assure qu'il ne devrait pas avoir besoin de rallonge du pays.
Mais pour autant, tout ne va pas bien au CHPF.
Et voilà la mauvaise nouvelle, ce manque d'attractivité. C'est ce que disent le chef de service des urgences, qui préside aussi la commission médicale d'établissement, Tony Tekoa Taoa, et le pharmacien en chef, Philippe-Emmanuel Dupire. Il y a donc des sous, mais le personnel s'en va, même les Polynésiens.
Alors en 2025, en fait, l'enjeu pour moi, il est clair sur l'attractivité des ressources humaines. Aujourd'hui, je fais le constat, malheureusement, au milieu d'année, qu'on perd des ressources qui s'épuisent. On a un statut qui est relativement obsolète, qu'il va falloir changer. Et surtout, comme on est dans un contexte de mondialisation de la ressource médicale, il va falloir s'aligner. C'est bien le point d'attention que je fais au niveau du conseil d'administration de l'hôpital. C'est s'aligner par rapport aux autres territoires, notamment ultramarins, la Calédonie, les Drôme, mais aussi la métropole. Et on voit qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout attractif, ce qui fait que même nos enfants du pays quittent l'hôpital.
Voilà, il faudra donc s'aligner sur la concurrence pour Tony Tekoa Taoa que vous venez d'entendre. Le salaire moins bon, les heures de travail plus nombreuses, des conditions qui font partir les médecins ailleurs. Et c'est un cercle vicieux car moins de médecins signifie toujours plus d'heures pour ceux qui restent. Le chef des urgences parle de 67 heures par semaine et ça tombe mal alors que l'état de santé de la population se dégrade.
Les urgences 2024, le bilan c'est qu'on a quand même des gros signaux d'alerte sur la dégradation de l'état de santé de la population, puisque sur les urgences vitales et les urgences un peu moins vitales, mais qui font beaucoup d'hospitalisations, on a des augmentations inquiétantes, ce qui va augmenter les durées moyennes de séjour dans l'hôpital et du coup la saturation de l'hôpital. Donc c'est en fait une machine qui s'emballe.
Voilà, une machine qui s'emballe et ils attendent du coup la modification du statut de l'hôpital en établissement public de santé. Une bonne chose pour Tony Tekoa Taoa qui espère des procédures moins lourdes. Malgré l'avis défavorable du CESEC, il espère que l'Assemblée adoptera ce texte, un projet de loi qui devrait être déposé sous peu au Conseil des ministres et passer en session extraordinaire à l'Assemblée le mois prochain.
Ouais, plusieurs réformes sont d'ailleurs prévues à l'hôpital.
La création du statut d'établissement public de santé donc, dont on vient de parler et leur regroupement, la modernisation des outils de l'hôpital et la création d'une fonction publique hospitalière. La directrice Anne-Thierry Payat assure que les bons résultats financiers vont permettre de rattraper le retard cumulé. Elle parle d'une dette technique. Écoutez.
La nouvelle loi de création d'établissements publics de santé et probablement la création d'une fonction publique hospitalière sont des pistes d'avenir que nous pourrons envisager maintenant que notre hôpital est à l'équilibre. Et depuis toutes ces années de déficit et de difficultés financières, l'hôpital a cumulé une dette technique, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris le train du progrès. Ses outils ne sont plus adaptés aujourd'hui, ils ne tiennent plus la route face aux innovations technologiques que nous connaissons aujourd'hui et à l'inflation que nous vivons.
Voilà des propos qui ont été recueillis par Caroline Perdry.
Vous écoutez le journal de la rédaction, il est 7h05, on part au port autonome Lucie maintenant, où 8 bateaux doivent partir.
Oui, c'est le tribunal administratif qui a ordonné vendredi l'évacuation de ces 8 navires du port autonome. Il s'agit du Taporo 7 et de 7 autres navires appartenant à la société de gage. 8 bateaux qui ne naviguent plus depuis longtemps et dont le port cherche à se débarrasser. Il veut aussi faire de la place pour l'arrivée du nouveau bateau de la SNP, le Avec Inouï 2, qui est attendu demain.
Et puis des gros travaux à l'aéroport de Tahiti Faa, ça commence jeudi.
Oui, qui entame entame la rénovation complète de sa salle d'embarquement domestique. Les passagers des vols inter-îles vont donc partager la salle d'embarquement internationale avec les passagers des longs courriers. ADT invite les voyageurs à faire preuve de patience car ça pourrait bouchonner certains matins. Parfois, ce sont déjà 3 vols internationaux qui sont programmés et ça va durer 18 mois, le temps prévu pour les travaux.
On parle à présent économie avec ce nouveau venu dans les perles.
Belle Pearl, c'est l'un des principaux négociants et organisateurs de vente aux enchères de perles à Hong Kong. L'entreprise a invité les perliculteurs à une réunion d'information samedi. Ils ouvrent un bureau à Papeete et proposent aux perliculteurs polynésiens d'y déposer directement leur lot sans passer par les négociants locaux. C'est Freddy Adjar qui ouvre le bureau de Papeete. Il travaille depuis longtemps avec la Polynésie. Il regrette que Radio Cocotier donne parfois de fausses informations.
Les perliculteurs, surtout ceux qui ne sont pas vraiment capables, par exemple, faute de moyens ou bien faute de logistique, ils ne peuvent pas aller à Hong Kong. Il manque vraiment les bonnes informations sur la qualité, sur le prix. Parfois, ils ne savent pas. C'est tout simplement aussi simple que ça qu'il y a des tendances, il y a des changements dans le marché, notamment en Chine, qui est le plus important maintenant. Les bonnes informations pour engendrer les bonnes décisions.
Et concrètement, Belle Pearl propose aux perliculteurs des estimations gratuites de leur lot et un acompte immédiat si le prix leur convient. Les producteurs se déclarent ouverts à l'arrivée de cet opérateur qui leur offre un accès plus direct au marché international. On écoute Harry Sichua de Gambier Pearls.
Actuellement, en fait, on est un peu soumis à la présence des négociants ici. Moi, je pense que c'est une très belle chose pour les perliculteurs polynésiens qui, maintenant, à travers Belle Pearl, peuvent avoir en fait accès à coût réduit au marché hongkongais et vente aux enchères de Hong Kong. Ça élimine complètement l'intermédiaire, en fait. C'est le changement de l'économie et de l'industrie.
Mais une pénurie de nacre inquiète les professionnels. Pour Harry Sichua, une seule possibilité, l'écloserie. La collecte de naissants ne fonctionne plus au Gambia à cause de la pollution, selon lui. Une écloserie doit donc ouvrir en mars l'année prochaine. Il faudra alors attendre 18 mois pour obtenir une huître prête à être greffée. Il est temps donc de lancer ce genre de projet pour assurer la pérennité de la production.
Et puis deux nouvelles victimes sur les routes ce week-end.
Une petite fille fauchée par une voiture à Puéou et un homme éjecté de son camion à Afaïti. 19 personnes sont décédées sur les routes depuis le début de l'année.
Et ce sont aussi 4 personnes qui ont été secourues en mer ce week-end.
3 personnes à bord d'une pirogue à voile. L'embarcation coulait alors qu'ils se trouvaient au nord-ouest de Moorea. Ils ont été récupérés par la Petei Express et un kitesurfer qui s'est retrouvé en difficulté dans la passe de Papara. Ce sont les pompiers qui l'ont ramené sur la côte. Et puis un paddle dérivé dans le lagon à Rayatea a suscité de l'inquiétude et le déclenchement du dispositif de recherche. Mais dans la soirée, le GRCC a appris qu'il s'agissait simplement d'un paddle égaré.
On revient sur ce violent incendie qui a détruit une maison cette nuit à Moorea.
Oui, le feu s'est déclaré vers 23h hier soir dans un quartier de Maharepa. D'après les témoignages, les pompiers sont intervenus rapidement, mais un manque de pression d'eau a ralenti l'intervention. Et malgré l'aide des jeunes du quartier, le phare a été entièrement détruit. Les sinistrés ont été pris en charge temporairement par la paroisse protestante de Maharepa et un appel à la solidarité circule depuis cette nuit pour récolter des vêtements, de la nourriture ou du matériel de première nécessité.
Et on referme ce journal, Lucie, avec cette grande fête organisée par l'Union Polynésienne pour la Jeunesse.
300 internes étaient rassemblés à Pire samedi. L'Union Polynésienne pour la Jeunesse organisait une journée loisirs avec des activités sportives. Les élèves de différents établissements ont la possibilité de se rencontrer ainsi 2 fois par an grâce à ces week-ends. Ce dispositif éducatif doit mieux accompagner les internes. Ils sont les plus nombreux à être touchés par le décrochage scolaire. La Polynésie compte 22 internats et ce sont 1800 élèves qui sont pris en charge chaque année par les associations regroupées dans l'UPJ. Le ministre de l'Éducation, Roni Teripaya, était présent aussi et justement l'accompagnement des internes sera une grosse partie dans la nouvelle charte de l'éducation en train d'être rédigée.
On a fini les états généraux. Là, nous sommes allés entrer dans la phase de rédaction. Donc, ça va nous mener vers le mois de décembre à peu près. Peut-être qu'en janvier, on pourra présenter la phase finale. Mais l'important en tout cas, c'est de prendre son temps. Parce que c'est bien de faire des états généraux, c'est bien de rédiger, mais en même temps, il faut qu'on mette en place un plan d'action qui soit concret et réalisable. Donc ça demande du temps.
Cette nouvelle charte de l'éducation doit donc être présentée aux élus de l'Assemblée seulement l'année prochaine. On parle de la session administrative d'avril 2026. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 7h30 pour la revue de presse.
Merci beaucoup Lucie et à tout à l'heure.